vous savez que selon Anorexie et Boulimie Québec, depuis quelques années, on note une hausse fracassante de la détresse psychologique dans la population en général et particulièrement chez les jeunes et des jeunes qui souffrent de troubles de conduite alimentaire. Ces troubles représentent la troisième maladie chronique la plus répandue chez les adolescents et les adolescentes. Elle compte avec un des taux de mortalité les plus élevés entre les troubles de santé mentale. Hein, c'est quand même important. Alors, pour en parler, nous recevons Karine Pendleton. Elle est intervenante au volet jeunesse chez Anorexie et Boulimie Québec. Bonjour.
Bonjour.
Oui, alors, c'est pas des nouvelles intéressantes qu'on entend là, que les troubles de conduite alimentaire sont... en hausse, justement. D'abord, parlons de c'est quoi un trouble de conduite alimentaire?
Oui, tout à fait. Donc, un trouble alimentaire, en fait, c'est avoir une relation problématique avec son corps et la nourriture. On peut penser à l'anorexie, mm-hmm. où les gens vont avoir une très grande peur de grossir. Il va y avoir aussi des enjeux au niveau de l'image corporelle. Et c'est sûr que parfois, on peut entendre dans la société qu'un trouble alimentaire, c'est juste un caprice ou c'est juste un problème de nourriture. Souvent, moi, l'image que j'aime montrer aux gens, c'est comme un glacier. Donc, souvent, ce qu'on voit à la surface, ça peut être les comportements qui sont problématiques. Ça peut être un jeune qui a perdu un peu de poids, qui est plus isolé. Par contre, ce qui est caché, c'est, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, c'est la détresse psychologique. Les problèmes au niveau de l'anxiété, de l'estime, de l'image corporelle. Donc, c'est quand même une maladie très complexe.
Oui, et puis, c'est terrible. Pour avoir connu et pour connaître encore des personnes qui souffrent de troubles de conduite alimentaire, c'est vraiment pas un caprice, je peux vous le dire. Et pour avoir mm-hmm. perdu une personne très proche de moi à cause de ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus grave, justement, que la pointe de l'iceberg. Ben justement, est-ce que c'est ces troubles de conduite alimentaire, est-ce qu'on peut les considérer comme étant des maladies mentales?
Tout à fait, tout à fait. Un trouble alimentaire, c'est une maladie mentale. Donc, c'est sûr qu'on pour s'en sortir, parce que oui, la bonne nouvelle, c'est que le rétablissement est possible. Il faut soit suivre une thérapie, que ce soit aller voir un psychologue, ça peut être un nutritionniste spécialisé en matière de troubles alimentaires, sexologue aussi. On sait qu'il y a quand même un lien entre la sexualité et les enjeux qui touchent les troubles alimentaires. Donc oui, c'est vraiment un enjeu de santé mentale qui est très, très, très grave.
Est-ce qu'on peut rapidement le faire un petit peu le lexique? Parce qu'il y a plusieurs termes qu'on a utilisés. On a parlé d'anorexie, mais il y a la boulimie, l'hyperphagie, la bigorexie, l'orthorexie. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le tour de ça puis nous dire un peu c'est quoi ces comportements-là?
Tout à fait. Donc, effectivement, il y en a beaucoup. On peut commencer peut-être avec le plus connu, je pense, qui est l'anorexie.
Tout à fait, oui.
Je pense que je l'avais pas mentionné un petit peu plus tôt, mais une distorsion de l'image corporelle. Donc, souvent, je trouve le parallèle plus facile à faire, c'est quelqu'un qui se regarde en miroir et qui a l'impression d'être beaucoup plus gros que dans la réalité, ou un jeune garçon qui a l'impression, d'être pas assez musclé à son goût, ben ça, on va peut-être plus parler de bigorexie, je vais revenir là-dessus tantôt. Mm-hmm. Mais l'anorexie aussi, quelque chose qu'on oublie des fois, c'est le déni de la maladie. On va voir des gens souvent très maigres parce que oui, il y a beaucoup de restrictions alimentaires, beaucoup de « j'ai pas faim, j'ai déjà mangé, je vais manger plus tard », parce qu'il y a vraiment une très grande peur associée à la nourriture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup au niveau de l'anorexie. La boulimie, maintenant, c'est vraiment des gens qui vont manger leurs émotions. Je suis triste, je m'ennuie, je suis stressée, la nourriture vient combler un vide en moi. Et la personne va manger des quantités quand même assez impressionnantes de nourriture rapidement. Donc, c'est vraiment des binges ou des crises. Mm-hmm. Et la personne après va sentir terriblement, terriblement mal. Beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Et on va utiliser ce qu'on appelle des comportements compensatoires pour éviter de prendre du poids après la crise. Par exemple, quelqu'un qui va se faire vomir, quelqu'un qui va s'entraîner excessivement, qui peut peut-être utiliser des laxatifs, retomber dans une phase très restrictive où je vais faire des régimes, imposer des règles alimentaires, etc. Donc ça, c'est vraiment la boulimie. Ensuite, on a l'hyperphagie qui est très similaire à la boulimie. La différence, c'est tout simplement qu'après la crise alimentaire, la personne ne va pas essayer de perdre du poids. Donc, elle ne va pas utiliser que ce soit des laxatifs ou l'entraînement excessif pour essayer de contrôler son poids. Donc ça, je vous dirais, c'est vraiment les trois plus connus. Ensuite, vous l'avez mentionné, on a entre autres la bigorexie. La bigorexie qu'on voit beaucoup chez les athlètes, les gens qui s'entraînent beaucoup, qui vont développer une obsession du corps. Et par exemple, on va voir des athlètes abuser de tout ce qui est stéroïdes, de s'entraîner des heures et des heures, négliger la vie amoureuse, négliger le travail au profit de l'entraînement. Encore une fois, il y a une distorsion de l'image. Je me regarde dans le miroir et j'ai l'impression de ne pas être assez musclée, même si je le suis probablement vraiment. Donc ça, c'est la bigorexie. Le dernier peut-être que j'aimerais aborder, c'est l'orthorexie. Je vous dirais l'orthorexie, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans la société. C'est l'obsession de manger santé, de toujours regarder la valeur nutritive de ce que je mange, lire justement les étiquettes, les ingrédients, avoir vraiment une alimentation santé, si je le mets en guillemets ici, là, donc catégoriser les aliments comme bons ou mauvais, enlever de mon alimentation tout ce qui est transformé. Donc, c'est vraiment ces troubles-là qu'on va voir le plus souvent dans la population.
Mais lequel de ces conduites ou lesquelles de ces conduites pourraient avoir des conséquences, pourraient être mortelles?
Je vous dirais que tous les troubles alimentaires sont dangereux, mais celui, malheureusement, où le taux de mortalité est le plus élevé, c'est l'anorexie. Mmh. Je ne vais pas me tromper dans la statistique, mais c'est environ 4% des gens qui souffrent d'anorexie qui vont malheureusement décéder. La cause principale, ça va être faire une crise cardiaque ou le suicide. Je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais justement, la détresse psychologique, malheureusement, elle est très, très forte chez la clientèle. C'est un type d'intervention qu'on fait quand même souvent là, pour aider les personnes qui sont en grande souffrance.
Statistiquement parlant, la période la plus à risque pour développer un trouble alimentaire, ça se situe où à peu près?
Oui, c'est une bonne question. C'est vraiment entre 14 et 25 ans. Donc, la période qu'on va appeler adolescence, jeune adulte. Ouais. Il va y avoir plusieurs raisons là, justement qui expliquent cette prévalence-là. Je dirais la raison principale, c'est vraiment l'adolescence, c'est un moment de grand bouleversement. C'est tout ce qui est la puberté. C'est un moment où on forge une personnalité, on apprend à se connaître. Le regard des autres est souvent très important à cet âge-là. On est beaucoup dans la validation. Alors, si je suis une jeune fille et je vois mon corps changer, mais peut-être pas encore mes amis, je peux commencer peut-être à me sentir inconfortable à travers ces changements-là, être de plus en plus confiante et préoccupée de mon image, de mon apparence. C'est sûr aussi qu'on est un petit peu plus influençable à cet âge-là. Oui. Donc, les réseaux sociaux, c'est sûr que je ne veux pas diaboliser les réseaux sociaux, c'est pas ça mon message aujourd'hui, mais souvent ce qu'on met de l'avant chez Anève, quand on parle aux jeunes, c'est d'être critique en fait de ce qu'on voit sur les réseaux, hein, tout ce qui est les standards de beauté.
Ah, puis la grossophobie sur les réseaux sociaux aussi, c'est horrible.
Tout à fait. Oui. Tout à fait. La grossophobie, c'est malheureusement un phénomène de société qui est bien présent.
C'est pas assez dénoncé. Moi Karine, je suis d'accord, on va pas diaboliser les réseaux sociaux, mais disons que parfois mal utilisés, ça devient diabolique, les réseaux sociaux. Hein, c'est un peu ça le problème. Vous existez l'ANEP depuis bien. Ah oui, juste avant, est-ce que les troubles alimentaires ou les troubles de conduite alimentaire, est-ce que ça affecte également ou différemment les hommes et les femmes?
Oui, donc c'est sûr que souvent, nous, ce qu'on va dire, ou en fait, ce que, bon, les recherches, les études démontrent, c'est qu'un trouble alimentaire, ça discrimine personne. Dans le sens que, peu importe notre sexe, notre genre, notre âge, notre orientation, notre nationalité, on peut tous être à risque. Par contre, c'est vrai que les femmes court un plus grand risque que les hommes d'en souffrir. Mais les hommes, ce qu'on va voir, c'est vraiment plus au niveau de la bigorexie, ce que j'ai mentionné un petit peu tantôt. Aussi, quand même une bonne prévalence, je vous dirais, au niveau de l'hyperphagie. Mais quand même, si on regarde au niveau des statistiques, c'est environ, je vous dirais, 25 à 30 % des gens qui ont un diagnostic de trouble alimentaire s'identifient comme étant des hommes. C'est quand même pas à négliger.
C'est pas négligeable. Le temps nous presse, mais ça fait quand même une quarantaine d'années, là, ça fait 40 ans que vous existez, Aneb. Depuis les dernières années, donc, vous avez remarqué qu'il y avait une hausse importante des troubles de conduite alimentaire. À quoi on attribue cette augmentation?
Oui, je vous dirais, la raison principale qu'on voit depuis quelques années, en fait, c'est la pandémie. La pandémie a vraiment agi un peu comme un catalyseur, a propulsé les gens qui étaient déjà fragiles, soit au niveau de leur image corporelle, peut-être qu'il y avait déjà certains enjeux au niveau de l'estime, bon, de l'anxiété, des relations interpersonnelles. Et ce qui est arrivé avec la pandémie, bon, on sait tous cette période très difficile qu'on a traversée, on était plus isolés, on avait peut-être moins accès à nos stratégies pour nous changer d'idée, pour nous faire du bien. La notion de perte de contrôle, hein, c'est très important quand on parle de troubles alimentaires, la notion de contrôle. C'est souvent des gens qui vont nous dire avoir le sentiment d'avoir peu de contrôle sur leur environnement. Donc, avec la pandémie, pas vraiment de contrôle sur le virus, bon, tout ce qui est les mesures sanitaires, ça peut nous amener beaucoup de sentiments d'impuissance, d'anxiété, de stress. Donc, ça a amené les gens à développer, que ce soit des habitudes alimentaires un petit peu plus problématiques, malsaines, et justement une plus grande fragilité au niveau de l'image, le fait d'être isolé, d'avoir peu de réseau. Je vous dirais, c'est vraiment, avec la pandémie, on a vu une explosion de troubles alimentaires dans la population.
Alors, c'est tout le temps qu'on a, mais j'aimerais terminer en vous demandant si quelqu'un ou quelqu'une a besoin d'aide, est-ce qu'elle peut faire appel à l'ANEB et comment le fait-on?
Tout à fait. Donc, ANEB, on a plusieurs services. On a une ligne d'écoute. Donc, la ligne d'écoute, elle est disponible de 8 h le matin à 3 h du matin. Notre numéro est sur notre site Internet. On a juste à écrire ANEB Québec et on va nous trouver. C'est très facile de nous trouver rapidement. On a des services de texto, on a du clavardage, on a des groupes de soutien, une adresse courriel. Important de préciser que nos services sont gratuits. Donc, c'est vraiment, on veut que nos services soient inclusifs et puissent, que tout le monde puisse en profiter. Alors, voilà. Et on a aussi des services pour les proches. C'est juste important de le préciser, vous l'aviez mentionné, l'entourage peut être affecté par le trouble alimentaire. Donc, oui. Si on a des parents qui nous écoutent, des amis, des membres de la famille qui ont juste besoin d'un espace pour ventiler, pour parler, on est là aussi pour l'entourage.
Donc, on cherche Aneb sur vos furteurs, dont Google, qui bloque beaucoup de sites de nouvelles, mais c'est pas grave, on va quand même leur dire, c'est là que ça se trouve. Aneb, donc, est un organisme qui soutient les personnes qui vivent avec des troubles de conduite alimentaire. Et on a reçu Karen Pendleton, qui est une intervenante au volet jeunesse chez Aneb. Merci beaucoup.
Merci à vous.